Eh bien, chers amis auditeurs, bonjour. Ce journal des éditeurs aujourd'hui sous la pluie à Paris après hier une journée de soleil. Décidément, on n'a pas de chance. J'aimerais que le printemps arrive et je crois que vous êtes d'accord avec moi.
Oui. Voilà.
Alors, aujourd'hui, on a deux auteurs. On a Liane Guillaume. Alors, Liane Guillaume, c'est une grande voyageuse. Elle a circulé un petit peu partout, dans l'Inde, New Delhi, la Russie, Saint-Pétersbourg, Moscou.
J'ai vécu dans ces pays.
Et vous
c'est
avez vécu. Vous
c'est
avez
différent
vécu.
De voyager.
Vous avez vécu jusqu'en 86 à New Delhi, je crois.
Oui, là. J'ai fait deux séjours en Inde.
Voilà, et puis vous avez vécu aussi en Afghanistan.
Oui, deux fois.
En Ouzbékistan. Je suis allé en Afghanistan.
Ah oui, oui.
Voilà, et en Inde aussi d'ailleurs, j'ai fait la route la plus haute du monde en Inde, à New Delhi, monté jusqu'au col de Kardungla qui est à 6000 mètres en moto. Voilà, passionné aussi de voyage, vous voyez, moi j'adore échanger, avoir des gens avec qui on a les mêmes vécus, les mêmes passions, quoi, voilà. Et vous avez écrit plusieurs livres, vous êtes de Bourg-en-Bresse.
Oui.
Vous avez vécu là-bas.
Oui, enfin mon enfance jusqu'à la terminale.
Voilà, ouais. Et puis ensuite l'université, et vous êtes à la Société des gens de lettres, dont je suis aussi sociétaire.
J'ai une formation théâtre, danse.
Théâtre aussi.
Je fais de la danse aussi beaucoup. La danse indienne d'ailleurs,
ouais.
En Inde. Et du yoga en Ouzbékistan. Voilà.
D'accord.
C'est original, mais.
Non, mais un parcours tout à fait intéressant. Vous avez eu le prix Jacques Bouquin en 2008, le prix Roland de Jouvenel en 2022, voilà.
Décerné par l'Académie française.
Oui, il faut le préciser, il faut le préciser.
Bravo.
Il faut le dire. Hein. Et vous êtes membre, je le disais, de la société, vous êtes sociétaire de la Société des gens de lettres.
Oui, et voilà. Du SJPP, les journalistes, la presse périodique.
Voilà, bah écoutez, formidable. Et vous venez de publier un livre, Liane Guillaume, Perverse ou le roman de Jeanne. Alors, ce livre, au départ, je me suis dit... Perverse, c'est quoi? C'est qui? Alors, nous sommes aussi avec Sylvana Bergonzi, qui nous parlera de notre livre après, de Nicolas Le Nain, un général qui parlera de l'armistice, avec la chute de Dien Bien Phu, les prisonniers qui remontaient, on échangera là-dessus. Général de chasseurs alpins, voilà. Et donc, Perverse ou le roman de Jeanne. Et là, vous avez rencontré, tout à fait, en allant Place des Ternes.
Bah oui, en fait, cette autrice a passé les 5 dernières années de sa vie dans mon immeuble, figurez-vous. Et elle était complètement oubliée et même occultée. Son nom ne figure pas sur le tombeau familial au cimetière de Montparnasse. Donc je l'ai exhumée. Alors, il y avait une universitaire américaine qui l'avait étudiée, qui écrit d'ailleurs un essai sur elle. Vous savez, dans le cadre de ces départements de gender studies aux États-Unis. Mais moi, je pense que j'ai été la première française à vraiment l'exhumer.
La redécouvrir. Mais comment, alors, cette personne qui s'appelle Jeanne de la Vaudère, comment vous avez habité à cet endroit-là, vous avez visité ce lieu qui est magique. Je ne l'ai pas visité, mais ça m'a donné envie d'aller le voir.
Alors, je vais vous dire comment ça s'est passé. Quand je m'installe quelque part avec mon mari, donc, on aime bien connaître l'histoire du lieu où on habite.
Ouais.
Et on avait trouvé un appartement 9 Place des Ternes. Et on voulait savoir un petit peu l'histoire, surtout que c'est un immeuble intéressant avec une cour ronde au milieu qui est classée. Et on a cherché partout des livres, et puis chez un bouquiniste des Quais de Seine, je trouve un vieux guide de Paris, d'un certain André Bay de Fouquière, qui raconte Paris à travers les adresses de célébrités. Il est mort dans les années 50, ce monsieur-là. Et donc, je regarde Place des Ternes, et je vois Jeanne de la Vaudère a vécu au 9 Place des Ternes. Elle est oubliée, mais est-ce qu'elle méritait de passer à la postérité? Certainement pas. Et ça m'a fait bondir. Parce que aussitôt, j'ai regardé sur Internet, parce qu'elle a quand même une petite page Wikipédia.
Je l'ai là,
oui.
Je l'ai là, je suis
et
allé
là,
la voir.
Et là, j'ai vu qu'elle avait beaucoup publié.
Oui, absolument.
Et non seulement elle a beaucoup publié, mais en cherchant, en faisant des recherches, etc.
Près d'une trentaine de livres.
Une trentaine de romans, mais une quarantaine d'écrits, plus des articles. Elle était une brillante journaliste. Et je me suis rendu compte qu'en plus, elle avait eu un succès énorme, elle avait gagné beaucoup d'argent. Elle a vendu quand même Le Mystère de Kama à 25 000 exemplaires. À l'époque, c'était Une vie de Maupassant, c'était vendu à 25 000 exemplaires aussi. Donc c'est dire qu'il... Et alors, j'explore dans mon livre les raisons pour lesquelles elle a été oubliée, occultée, etc. Bon, alors il y a des hommes là derrière, évidemment, hein, vous vous en doutez.
Oui, elle avait un côté, là c'est le côté, le titre du livre d'ailleurs, le côté perverse.
C'est-à-dire qu'au début, elle a écrit des romans assez... sur la vie parisienne, où elle critiquait beaucoup les Parisiens, le snobisme, etc. Elle a écrit des romans en rapport avec l'actualité. Elle s'intéressait beaucoup à l'actualité, donc les expositions universelles, la loi sur les congrégations 1901. Il n'y a que l'affaire Dreyfus dont elle ne parle pas vraiment. Mais sinon, elle parle du conflit Arménie-Turquie, la façon dont les Arméniens étaient massacrés par les Turcs. Elle parle de tas de choses. Et puis, en 1897, elle publie un livre qui s'appelle « Les demi-sexes », dans lequel elle révèle... Alors, un livre qui a été pareil, on a arrêté de le publier.
C'était une des premières féministes.
Des premières, non, il y en avait eu déjà avant, mais c'était une féministe, absolument. Oui. Mais dans son livre, Les demi-sexes, elle raconte une histoire, que personne ne sait. C'est qu'entre les années 1895 et 1900, il y a eu un phénomène incroyable, c'est que des femmes de la haute société, des jeunes filles, etc., se faisaient retirer les ovaires par des médecins corrompus, qui gagnaient beaucoup d'argent là-dessus, etc., pour vivre leur sexualité en toute liberté, sans risque. Vous voyez que même les féministes...
Il n'y avait pas les protections qu'on a aujourd'hui,
bien sûr.
Etc.
Oui, mais enfin, vous vous rendez compte, elles renonçaient à avoir des enfants pour toute leur vie.
Oui, bien sûr.
Et même les féministes des années 70-80 n'avaient pas pensé à ça. Hein, vous rendez compte, n'était pas allé jusque-là, se faire enlever les ovaires, en plus à une époque où on pouvait risquer sa vie dans une opération.
Mais racontez-nous alors votre arrivée, place des Ternes, où vous rentrez dans cette maison, cette cour ronde-là, et vous rencontrez une personne qui vous a aussi aidé, c'est la concierge,
voilà,
la gardienne.
Voilà, c'est la gardienne, alors tout ce que je raconte dans mon livre est à peu près vrai, elle s'appelle Elisa, dans le roman c'est Elisa, mais en fait, si vous voulez, mon alter ego, l'enquêtrice, la narratrice-enquêtrice de mon livre, c'est mon alter ego, mais elle est quand même différente de moi. Moi, je la fais découvrir l'immeuble, ensuite rencontrer la gardienne qui lui dit « Ah, vous cherchez un personnage, une héroïne féminine ? Oh, bah, écoutez, alors il y a une dame dans l'immeuble, une vieille dame qui est la descendante
d'un... » Qui avait 80 et quelques années.
Oui, c'est ça.
Et très dynamique, très vivante.
Voilà.
Quoi.
Et sinon... Comme héroïne, en tout cas, elle pourra vous donner des informations, elle est très cultivée, etc. Donc, ma narratrice-enquêtrice va voir cette dame qui lui dit « Mais pourquoi est-ce que vous ne vous intéresseriez pas à Jeanne de La Vaudère ? Elle est complètement oubliée, mes grands-parents l'avaient connue un petit peu, mais on prononçait ces mots à voix basse parce qu'elle a écrit des choses très sulfureuses. » Donc c'est comme ça que...
Alors, il faut rappeler que c'était l'époque, c'était la belle époque, c'était années 1900...
Et c'est vrai qu'il y avait, à la belle époque, une espèce de joie de vivre, une espèce de... la libération des mœurs, que je mets un petit peu en parallèle avec les années 70-80 chez nous. Et il y a eu véritablement... les gens pensaient à l'amour, au flirt, à aller au cabaret,
C'était Montmartre, c'était Saint-Germain.
Voilà, c'est ça, le Moulin Rouge, etc. D'ailleurs, à la fin de mon livre, je raconte un épisode, le fameux baiser entre Colette et son amante Missy sur la scène du Moulin Rouge qui a créé un scandale. Et ce texte avait été piqué à Jeanne de La Vaudère. C'était Jeanne de La Vaudère qui avait...
Vous parlez du Moulin Rouge et vous racontez... Pourquoi il s'appelle le Moulin Rouge ? Vous racontez un petit peu
la légende derrière cette histoire des moulins. Quand les Russes sont arrivés à Paris, ils ont massacré ceux qui tiennent les moulins.
Oui.
Et il en restait un qui s'est rebellé contre...
Les meuniers.
Les meuniers. Excusez-moi. Et donc, un mot aussi simple, j'aurais dû m'en souvenir, mais bon. Et le dernier qui se rebellait contre les Russes, eh bien, ils l'ont découpé en morceaux, ils l'ont suspendu aux ailes des moulins. Les ailes tournaient, ça faisait du sang qui dégoulinait partout. C'est pour ça que ça s'est appelé Moulin Rouge. Et Jeanne de la Vaudère, quand elle rejoint son mari au Moulin Rouge, elle dit « Mais pourquoi ça s'appelle comme ça ?» Et le serveur lui donne une brochure et elle découvre, voilà.
Alors, on découvre donc le personnage de Jeanne.
Oui.
Mais on découvre aussi, vous écrivez très bien, tout le Paris de cette époque. Il y a des descriptions du Paris de cette époque qui sont magnifiques.
Oui, alors justement, à travers Jeanne de Lavaunaire, qui en elle-même est un personnage exceptionnel, on découvre effectivement le Paris des années 1900, de la Belle Époque, qui était, alors comme je vous dis, une période de joie de vivre, et puis pour les femmes, ça a été formidable, elles ont eu des acquis, etc. Mais en même temps, c'est une période un peu noire, il y a eu quand même l'affaire Dreyfus, qui a empoisonné la vie politique et sociale française entre 1894 et 1906, ça s'est terminé en 1906. L'incendie du bazar de la Charité, on a oublié, mais c'était quelque chose d'épouvantable. Tous ces corps de femmes grillées, exposées à la vue, etc. Il y a eu quand même un certain nombre d'événements qui ont noirci cette belle époque.
Mais alors là, vous parlez, moi je vous cite Arquebouté, je mets des lunettes, hein, parce que... voilà. Arc-boutée, le cœur battant, elle pose enfin le pied sur la plateforme du second étage. Une douleur lui barre la poitrine dont elle vient à bout en ralentissant la respiration. De là-haut, on domine la capitale étourdie, mais éblouie par la vue enivrée d'air pur.
Oui,
Jeanne avait ressenti
la...
un vent de liberté.
Ouais.
Lui fouettait le visage. À nous de Paris, avait-elle murmuré, se souvenant de Rastignac, de Balzac, bien sûr, une pensée espiègle qui lui avait traversé l'esprit. Et si elle faussait compagnie à cet individu resté en bas et devenu si petit, son mari.
Oui, alors la pauvre Jeanne de Lavaudère, elle avait été mariée par sa sœur, qui avait 8 ans de plus qu'elle, qui a voulu un peu se débarrasser d'elle. Elle l'a mariée à un brave garçon du coin, qui était propriétaire terrien, propriétaire du château de Lavaudère, à Parigné-l'Évêque, à côté du Mans. Et puis bon, c'était non seulement il n'avait pas son niveau intellectuel, culturel, etc., mais en plus, il entretenait des maîtresses. Enfin bon, ça c'était pas très rare à l'époque, mais il a fait des dettes que Jeanne de Lavaudère a épongé. Elle a gagné beaucoup d'argent avec ses livres et c'est elle qui épongeait les dettes de son mari et qui elle a réussi à divorcer en 1898 et elle a gagné, enfin elle a son divorce à son avantage et elle a pu devenir propriétaire du château de Lavaudère parce que elle seule était capable financièrement de l'entretenir.
Elle a vécu dans l'appartement que vous avez occupé.
Alors, ça, je ne sais pas, j'aimerais bien, mais... Excusez-moi. Non, elle a vécu dans l'immeuble, on a essayé de savoir dans quel appartement, on n'a pas réussi à le savoir, mais en tout cas, Bette Fouquière, donc dans son livre « Mon Paris et les Parisiens », là, qui est assez méprisant à son égard, hein, oui, une femme, écrivain, mais il était très jaloux, parce qu'en fait, lui aurait bien aimé publier autant qu'elle, et... Elle ne parle pas de l'immeuble dans son œuvre, mais elle parle beaucoup du parc Monceau qui était tout à côté. Elle a vécu rue de la Boétie, elle a vécu avenue de Messine, tout près du parc Monceau, dans ce coin-là, qui était à la limite du 17e et du 8e, et qui était un quartier extrêmement recherché à la Belle Époque, et en même temps vivant, parce qu'il y avait des théâtres, etc.
Voilà, alors vous avez trouvé ce livre, le livre de
Bette Fouquière.
D'André de Fouquière, qui a testé dans son ouvrage la page élogieuse qui lui consacrait.
Et il donne son adresse, il dit, elle
exactement.
Voilà, elle habite. Alors, de temps en temps, elle fait des apparitions déguisées en japonaise, etc. Mais comme elle aime bien travailler calmement, elle va souvent au château de Lavaudère pour écrire en face de son étang couvert de nénuphars, etc. Pour autant, elle a vécu quand même les 5 dernières années de sa vie dans cet immeuble donc que j'habite, et elle a connu... Alors, c'est là que c'est très intéressant. Ce qui m'a aidé, c'est de vivre à Paris et de vivre dans son immeuble, parce que « Dis-moi qui sont tes voisins, je te dirai qui tu es », ça c'est vrai. Elle habitait tout près de Liane de Pougy, qui avait son hôtel particulier à 100 mètres de notre immeuble, de la cité, qui s'appelait la Cité Mondaine à l'époque. Et donc, Liane de Pougy, d'ailleurs, est une des rares personnes à parler d'elle, à l'époque, et dans son roman « Les sensations de Mademoiselle de la Brinque », parce que Liane de Pougy, toute grande horizontale qu'elle était, elle a quand même écrit un petit peu, et dans ce roman, elle parle de Jeanne de Lavaudère sous le nom de Vanne de la Jaudère, quelque chose comme ça, et elle la montre participant à une orgie.
Oui, voilà. Très libertine. Hein.
Très libertine. Alors, en ce qui concerne sa vie, on ne sait pas grand-chose, parce que les archives de Jeanne de Lavaudère n'ont pas été conservées. Alors, est-ce qu'elles sommeillent quelque part?
Je ne sais pas. À la Bibliothèque nationale, on ne les retrouve pas,
y a Non, il n'y a rien, je suis allée voir. Est-ce qu'elles ont été détruites? Alors, c'est possible qu'elles aient été détruites. Et alors, je ne veux pas dévoiler, parce que ce livre est une enquête biographique qui fonctionne un peu comme une enquête policière, donc je ne vais pas dévoiler
comment
la fin.
Comment vous avez travaillé? Parce que c'est rempli de détails, c'est rempli d'informations. Vous avez mis combien de temps pour écrire ce livre?
4 ans au moins.
Bravo.
Bravo, oui.
Bravo, parce que s'accrocher 4 ans avec
mais
un
c'était
personnage.
Tellement de bonheur de poursuivre cette femme.
Parce que vous avez vraiment, et puis alors vous nous décrivez le Paris de l'époque,
les cabarets,
et on rencontre plein de personnages, Zola, on rencontre...
Elle a adapté au théâtre une nouvelle de Zola, et on a encore la correspondance entre elle et Zola. Enfin, on a uniquement les lettres de Jeanne de La Houdère à Zola, on n'a pas les réponses de Zola. Mais elle lui dit, voilà, j'ai envie d'adapter une de vos nouvelles au théâtre. Pourriez-vous, s'il vous plaît, monsieur, me fixer une date pour que nous nous rencontrions? Elle était culottée quand même.
Alors, il y a toute une partie aussi sur l'exposition universelle.
Oui, les deux expositions universelles,
deux expositions,
mais en particulier celle de 1900, qui était l'apogée de la France.
Avec
et
la
de Paris.
Tour Eiffel,
oui,
dont vous parlez, la construction de la Tour Eiffel. Dont vous parlez. Et puis, Jeanne et Chloé, stupeur face à une réplique de la pagode d'Angkor.
Oui. Alors ça, c'était l'exposition universelle de 1889, puisqu'elle en a visité deux. Et alors, celle qui a vu l'inauguration de la Tour Eiffel, donc c'est celle de 1889. Et c'est bien, 1889, oui, c'est ça. Oui. Et effectivement, alors on voit Jeanne grimper à la Tour Eiffel et se réciter son poème, le poème qu'elle a écrit sur la Tour Eiffel. On la voit parcourir, éblouie, les différentes les stands avec la pagode d'Angkor, effectivement. Alors, pour elle, vous imaginez, pour les Parisiens de l'époque, c'était des découvertes extraordinaires. Ces pays, l'Inde... Alors, c'est amusant parce que, donc, comme vous l'avez dit, j'ai vécu moi-même en Inde, en Ouzbékistan, etc. Alors... À travers Jeanne de La Vaudère, j'ai découvert quand même une sœur de cœur, par-delà les années.
Encore,
les
vous connaissez, vous êtes allée, bien sûr.
Non, je ne suis pas allée encore, malheureusement, parce que c'était...
Alors, votre description est magnifique, parce que moi, je suis allée, visité le temple d'Angkor, et on retrouve dans votre description une espèce de réalité.
C'était très fidèle, les reconstitutions, oui.
Vos reconstitutions sont très, très, très fidèles, quoi. Et encore vite, on y est, quoi. On se dit... bravo. Donc, vous avez fait des recherches, vous avez cherché, documentation...
Alors, j'ai tout ce qu'on trouvait sur elle au niveau de sa vie. J'ai tout rassemblé pour avoir une base absolument solide pour ne dire que des choses vraies. Et à partir de là, bon, j'ai lu toutes ses œuvres. Naturellement, ça a été des mois et des mois à la Bibliothèque nationale parce qu'on ne trouvait plus ses romans. Maintenant, ça commence à changer.
Elle en a écrit presque une quarantaine de romans.
Alors, une trentaine de romans, une quarantaine d'ouvrages. Et plus des articles dans la presse qui sont extraordinaires parce qu'elle avait un sens sociologique et un humour, une ironie extraordinaire. Et j'ai lu toute son œuvre. Et en ce qui concerne sa vie, j'ai essayé de trouver des recoupements entre la vie et l'œuvre, j'en ai trouvé. Et à partir de tout ce qu'on savait, j'ai émis des hypothèses par recoupement ou déduction, mais uniquement vraisemblables, pour que tout soit crédible, si vous voulez. Voilà. Alors, donc, c'est mon alter ego, c'est cette enquêtrice-narratrice qui accomplit l'enquête. Alors, pourquoi est-ce que je ne me suis pas mise, moi? Je voulais quand même établir une distance. Et puis, cette femme, c'est quand même pas moi. Et en plus, ça me permettait de parler, par exemple, en ce qui concerne le féminisme, de mettre le féminisme de l'époque de Jeanne de La Vaudère et le nôtre en parallèle.
Bien
ce qui
sûr.
Permettait quand même, voyez, une... Et le féminisme n'était pas moins virulent à l'époque qu'il ne l'est maintenant. De même que l'appétit pour l'individualisme et l'appétit de soi, de la vie, etc., était aussi développé à l'époque que maintenant.
Vous avez retrouvé à la Société des gens de lettres des documents sur
Alors j'ai fait, oui, j'ai retrouvé des documents. Alors, la société
ils sont à l'hôtel de Massa.
Oui,
qui sont...
alors je fais un parallèle, vous avez vu, entre la Bibliothèque nationale de France, qui est un bâtiment écrasant, épouvantablement, intimidant, et puis le petit hôtel de Massa où se trouve la Société des gens de lettres, dont je suis moi-même membre sociétaire. Et vous voyez, beaucoup de parallèles avec Jeanne, et qui est un endroit absolument charmant. Donc j'ai fait les deux, Et à partir des archives, alors il y avait déjà un certain nombre d'archives qui avaient été découvertes, en particulier par, par Sharon Larson, cette universitaire américaine qui a écrit un essai, mais surtout orienté vers le féminisme, donc sur Jeanne de La Vaudère. Moi, je voulais véritablement la faire découvrir de façon à la fois historiquement vraie et romanesque, pour la faire connaître un public, certes cultivé, mais quand même élargi. Et je me suis rendu compte que toutes sortes de gens différents sont heureux de découvrir ce livre et le trouvent passionnant.
Voilà, alors en 1896, Paris se transforme en capitale mondiale du féminisme.
Oui.
Il y a un congrès international, vous décrivez tout ça. Et toutes ces archives, vous les avez retrouvées dans différents endroits, la Société des gens de lettres, la Bibliothèque nationale.
Alors j'ai fait beaucoup de... Mais vous savez, déjà sur Internet, enfin, bon, vous savez, il y a déjà beaucoup de choses. Mais j'ai fait naturellement des recherches. J'ai retrouvé dans l'œuvre de Jeanne de La Vaudère des allusions à ce grand congrès féministe 1896. Et d'ailleurs, elle était tellement... C'était une femme extrêmement... qui voulait toujours garder son indépendance d'esprit. C'est pour ça qu'elle n'a jamais adhéré à aucun parti, qu'elle n'a jamais... elle a toujours gardé son... Et elle était très ironique, quelquefois, vis-à-vis des féministes de l'époque. Et il y a quelques descriptions assez rigoles. Tout en étant elle-même féministe, puisque, ayant vécu un mariage malheureux, Elle a réussi à divorcer à son avantage et elle a milité pour que la nouvelle législation sur le mariage soit modifiée parce qu'elle la trouvait trop favorable aux maris.
Aux maris.
Voilà.
Alors vous citez en préface, en prélude de votre livre, Maupassant dans les lèvres à Cartul Mendès. Alors ce texte m'a vraiment beaucoup amusé.
Oui.
Je vous le lis. Je veux n'être jamais lié à aucun parti politique, quel qu'il soit, à aucune religion, à aucune secte, à aucune école, ne jamais entrer dans aucune association professant certaines doctrines, ne m'incliner devant aucun dogme, devant aucune prime et aucun principe, et cela uniquement pour conserver le droit d'en dire du mal. J'ai trouvé ça.
Ah oui, ça c'est
Maupassant, un texte de Maupassant.
Un Maupassant dans une lettre à Cartul Mendès. Et j'ai mis en exergue parce que ça décrit absolument le caractère de Jeanne de La Vaudère, qui a toujours gardé ses distances vis-à-vis de toutes les idéologies, de tous les partis. Elle était extrêmement sur son compte à soi. D'ailleurs, on a du mal à comprendre quelquefois quelles étaient ses convictions. Ce qu'on sait, c'est qu'elle était proche de Zola. Elle a été présente au procès de Zola dans le cadre de l'affaire Dreyfus. Elle n'est jamais intervenue, elle n'a jamais parlé dans ses articles de l'affaire Dreyfus parce que d'abord, donc, elle a toujours voulu garder ses distances. Et d'autre part, elle avait une grand-mère alsacienne qui portait un nom. Elle avait la trouille de passer pour juive, en fait.
Oui. Alors, elle était gigantesque, orgueilleuse, absolue, souple, serpentine, charmante et féroce.
Ouais.
Artiste séduisante et caustique, dont le charme étrange, fascinateur, m'obsède, me fait courir d'un frisson dans le dos. Ça, c'était son analyse graphologique.
Oui, c'est un certain Rochental, graphologue, qui a analysé l'écriture de Jeanne de La Vaudère et on a presque l'impression qu'il tombe amoureux d'elle en analysant son écriture.
Alors, sa vie, parce qu'elle est morte très jeune, elle avait 51 ans. 51
ouais.
ans, je crois.
Dans notre immeuble. Ouais.
Dans votre immeuble.
Ouais.
Et donc, sa vie, donc, elle a écrit quand même, on disait tout à l'heure, une quarantaine de textes écrits, de livres, de romans, de documents et autres.
Et des poèmes et des articles.
Et comment s'est passée sa fin de vie?
Alors, la fin de vie, je la raconte, on a des témoignages sur sa fin de vie. Elle a, se sentant mourir, elle avait une pleurésie, elle a convoqué autour d'elle son fils. Elle avait un fils unique qui d'ailleurs avait honte des écrits de sa mère, de ses romans érotico-exotiques, ça, elle avait vraiment honte de ça. Lui-même n'a eu que deux fils qui sont morts très tôt, donc la lignée s'est éteinte assez vite, ce qui est une des explications aussi à la...
Ces romans érotiques, c'était des romans qui étaient quand même très léger. On n'était pas dans des textes...
Oui, c'est léger.
Vous avez retrouvé ces romans, ces livres, bien sûr.
J'ai tout lu. Alors, quelquefois, sa plume langoureuse et audacieuse est allée voir du côté de du sadomasochisme, hein, quand même.
Ah oui, quand même, est allée jusque-là.
Il y a certains passages... avec de très jeunes bayadères courtisées par de vieux messieurs. Il y a des choses qui peuvent nous révolter.
Des expériences à l'époque avec les femmes, elle avait
c'était une autre époque, c'est une époque qui est très grivoise. L'époque 1900 et elle n'a pas été la seule à écrire des choses un petit peu osées, mais je pense que c'est quand même celle qui est allée le plus loin. Mais ça n'empêche pas d'avoir une écriture absolument magnifique. On peut écrire des choses érotiques et le dire avec une plume magnifique. Et elle avait une plume d'ailleurs qui annonce un peu Proust, assez chantournée dans le style de l'art nouveau en vogue à l'époque dans la décoration. Et oui, alors par rapport à la fin de sa vie, elle a donc autour d'elle, il y avait son fils, un ami, sa sœur unique d'ailleurs, qui n'est pas pour rien dans l'occultation de Jeanne de La Vaudère, les rivalités familiales. Alors, qui l'a trouvée morte? C'est pas du tout quelqu'un qu'elle connaissait, c'est un employé des gens qui étaient de passage dans l'immeuble par hasard, qui l'ont trouvée morte, mais c'est une fin assez, assez triste, on va dire. Et puis, ce qui s'était passé un an avant sa mort, c'est cet épisode au Moulin Rouge, où elle s'est rendue compte que Colette et Missy lui avaient piqué son texte sur l'Égypte, son
plagié,
rêve de Mises.
Oui. Il y avait une histoire de plagiat là, avec Colette. Quoi.
Oui.
Mais là, vous parlez, à un moment, vous parlez de, pas de Martini, de Mariani.
Ah oui, alors exactement.
Marrant cette anecdote.
Oui, alors effectivement, la narratrice rentre dans un café, elle vient d'apprendre que son éditeur accepte son manuscrit, alors elle est contente, elle rentre dans un café qui d'ailleurs qui existe à l'angle de la...
Qui existe toujours,
Oui. Et le 1903...
C'est l'étoile toujours, non?
L'étoile 1903.
C'est ça, oui.
Et ils sont toujours là. Et elle demande un vin Mariani, parce que c'était un vin qui était très...
C'est à l'angle de la butte Wagram.
Voilà.
Et de la rue Tixit.
C'est ça.
C'est ça, hein.
C'est ça.
Oui,
et
oui.
Alors elle demande un vin Mariani, parce que le vin Mariani était un vin très, très à la mode dans les années 1900. Et alors le Mariani, qui était un pharmacien qui avait découvert la...
Le garçon veut lui servir un verre de Martini.
Oui, alors, bah oui, parce que comme le Mariani n'existe pas, ouais. Il a été interdit parce que ça contenait de la cocaïne et une grande quantité de cocaïne. Donc les gens, vous vous rendez compte que Zola, le pape, ils ont tous goûté du Mariani. Et ils étaient, alors pour se faire de la publicité, Monsieur Mariani demandait aux célébrités de leur écrire un petit texte sur le vin. Alors il envoyait une caisse, vous voyez, ce sont des méthodes qui existent toujours, il envoyait une caisse, et puis la personne qui recevait la caisse devait faire un petit texte. Alors Jeanne de La Vaudère a écrit un petit quatrain fort joli sur le vin Mariani, et vraiment, ça les boostait, hein, comme on dit. Voilà, et donc...
Elle a écrit oui, parce que j'ai regardé, oui, ça m'a intéressé, en disant qu'est-ce qu'elle a écrit sur le vin Mariani. Boire du vin Mariani, c'est chanter, croire, aimer sans trêve, c'est ouvrir au pas du rêve une porte sur l'infini.
Et oui, donc Monsieur Mariani était très content d'avoir ce quatrain de Jeanne de La Vaudère qui était tellement célèbre à l'époque pour célébrer son vin.
Et on ne le trouve pas en Corse parce que Mariani, il était corse, hein, Mariani.
Oui, bien sûr. Hein? Mais il a été interdit ce vin parce qu'il était, c'était beau. Alors le Coca-Cola est vaguement une ressuscée du vin Mariani, mais en beaucoup moins fort quand même. Hein,
parce qu'à l'époque, on se saoulait beaucoup à l'absinthe plutôt.
L'absinthe, l'éther, il y avait des fumeurs d'opium. Oui, c'était l'époque aussi. Eh oui, la belle époque, c'était ça. Hein.
Aujourd'hui, ouais, l'absinthe et tout.
C'est une époque plus triste maintenant, peut-être. Hein.
C'est différent.
Il y a beaucoup plus d'interdits.
Alors, beaucoup plus d'interdits, et je pense que Thomas Moret sera d'accord avec moi.
Quand même
par rapport aux années qu'on a vécues, les années 70, 80, 90, quand je suis pas passéiste, mais je suis un peu nostalgique de ces,
écoutez,
de ces
vous
belles
savez,
années qui étaient.
Je suis d'accord avec vous parce que je parle beaucoup de la de ces années 1900, de cette époque où la France était au summum de sa gloire, Paris, ville lumière, etc. Et on a le droit d'être un peu nostalgique de cette époque. Et en plus, et je le dis pour les féministes, en plus, les femmes ont eu beaucoup d'acquis à cette période-là.
Écoutez, c'est un livre magnifique. Moi, j'ai découvert Jeanne. On rentre dans le roman de Jeanne, on visite Paris, on circule avec elle, on boit du bon vin Mariani.
Oui. J'ai pas trouvé de vin Mariani. Tous, hein. On aime tous Jeanne de La Baudère.
On aime tous Jeanne de La Baudère. On termine, on pose le livre, on revient. Je suis revenu sur des passages de votre livre tout à fait intéressants, en disant est-ce que j'ai bien lu ça. Voilà quoi.
Il y a des choses étonnantes, c'est vrai.
Merci.
Et je vous
conseille
en prie, merci à
tous nos lecteurs. Il est en librairie, il est publié aux éditions du Rocher. Et le premier éditeur de Jeanne était Ollendorf, c'est ça, non, je crois.
Exactement. Elle a publié chez Ollendorf, chez Flammarion. Oui, de très bons éditeurs. Elle a été traduite à l'étranger. Il y a une fleur qui porte son nom. Ah non, mais elle était incroyablement célèbre et elle est complètement oubliée. C'est ça
voilà.
Qui est incroyable.
Elle est enterrée au cimetière du...
Oui, au cimetière de Montparnasse.
De Montparnasse.
Mais son nom ne figure pas sur le tombeau familial.
Oui, alors
pour
c'est
vous
ça,
dire
alors
à quel
ça
point
j'ai pas compris
c'est incroyable.
Pour ça.
Alors, c'est une histoire de rivalité familiale. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le fait qu'elle ait été occultée pour des histoires de romans osés. Je ne pense pas.
C'est ça, donc ils étaient un peu choqués par...
Ben la famille
par ce travail sur
la famille
les romans
a mal,
érotiques.
Famille, oui, bien sûr, la famille a mal pris tout ça, bien sûr.
Voilà, écoutez, moi je vous le conseille, Pervers, sous le roman de Jeanne, de Liane Guillaume, aux éditions du Rocher.
Merci.
Dans toutes les bonnes librairies. Voilà, on va écouter, on va faire une petite pause musicale avec un air que Jeanne aimait beaucoup.
Ah, elle aimait beaucoup Verdi, oui.
Elle aimait beaucoup Verdi, donc oui. On va écouter La Traviata. Eh bien voilà, on a écouté Verdi, un air cher à Jeanne. Elle aimait beaucoup la musique de Verdi, donc voilà, on lui rend un petit hommage avec cette musique de Verdi qui est toujours magnifique.
Et avec la voix de la Callas.
Avec la voix de la Callas. Ah bah oui, on n'allait pas s'en priver quand même. Hein. Voilà. Alors, on va parler maintenant d'un livre magnifique, un petit livre, parce qu'on a des gros livres, un petit livre, 174 pages.
À peine.
De bonheur, écrit d'une manière... Je vais le faire rougir Thomas, brillante. Moi j'étais habitué, j'avais lu quelques livres de Thomas Morales il y a bien longtemps, mais qui était un spécialiste plutôt de livres policiers.
Oui, j'ai démarré justement au Rocher avec une sorte de détective privé, voilà, un Nestor Burma des années 2000. On a fait deux enquêtes, il s'appelait Jos Beaumont, en rapport avec... Jean-Paul Belmondo, qui porte le nom de Jos Beaumont dans le film Le Professionnel. Mais j'ai surtout fait beaucoup d'essais, on va dire, sur la nostalgie et les Trente Glorieuses. Voilà, c'est le sillon que je creuse depuis une quinzaine d'années.
Voilà, et là, vous avez, j'ose pas dire bifurqué.
Mais oui, vous pouvez le dire.
On peut le dire, vous avez bifurqué sur un roman d'amour magnifique.
Vous pouvez le dire, oui, c'est un vrai, je le considère comme un vrai changement de cap. Hein. Alors, pas de carrière, parce que je m'imagine pas dans une carrière d'écrivain, mais c'est une vraie rupture. Je me suis rendu compte que je m'étais souvent caché derrière des sujets. Hein, quand on fait des essais plus ou moins liés à l'actualité, on se masque un petit peu. Et je pensais que passer l'âge de 50 ans, il fallait peut-être s'attaquer à ce qui est le plus dur, c'est-à-dire le roman d'amour. Et le roman d'amour, dans une forme extrêmement simple et très réduite, c'est-à-dire un homme, une femme. Une vraie histoire, pas d'autres personnages, peu de dialogue. Donc effectivement, c'est un livre qui tient essentiellement, je l'espère, sur le style. Il faut... à imposer dès le départ une sorte de rythme, de ton, qui est la mélancolie, mais pas une mélancolie triste, parce que moi je j'imagine ce livre-là plutôt comme quelque chose
de
lumineux.
Alors moi, ce qui m'a épaté, parce que je vous connais, vous avez été rédacteur de revue automobile,
Je
suis un passionné, on est tous les deux des passionnés d'automobile, je me souviens du magazine Mercedes, je me souviens du Rétroviseur.
Bien sûr, j'ai longtemps été une chronique dans Rétroviseur.
Vous avez fait toute une... vous étiez rédacteur dans là, et vous avez publié dans Causeur, dans le Au Figaro, vous avez une carrière là, et vous avez... petit à petit bifurqué, toujours en automobile, bien sûr, on parle d'automobile un peu.
ça reste mon fond culturel, on va dire, j'ai beaucoup travaillé pour l'auto, j'ai fait quelques livres sur l'auto, et j'ai essayé, j'ai eu la chance que vous m'avez lu plusieurs fois, j'ai essayé sans vraiment de grands résultats de traiter l'automobile sur un angle culturel.
Ouais.
C'était un peu ma marque de fabrique. Et donc, je parlais de l'automobile sous l'angle de la littérature, de la chanson, du cinéma. C'est une de mes véritables passions. Et là, je me suis dit, allez, on arrête avec tout ça. Et on se lance dans totalement une autre aventure littéraire. Voilà.
Vous avez eu le prix Tilinac.
Oui, j'ai eu cette chance-là d'avoir eu le prix Tilinac, le premier. Je suis le premier lauréat du prix Tilinac.
Et Denis, qui était un de mes amis, vous êtes sans doute connu aussi.
Voilà, je l'ai connu et fier parce que j'aime beaucoup l'œuvre de Denis Tilinac. Et puis, on avait un peu en parallèle, on va dire pas tout à fait la même carrière, mais quand même, il a démarré dans la presse quotidienne régionale.
Oui, à Brive.
À Brive. Moi, j'ai démarré dans le centre de la France. Hein,
donc il y avait un rapprochement.
Je suis un Berruyer, un Berrichon. Voilà.
Il a été, Denis Tilinac, je suis ravi d'en parler parce qu'on était très proches et enfin très, très amis, et je l'aimais beaucoup. Il a été un des précurseurs de ce qu'on appelait l'école de Brive.
L'école de Brive.
À l'époque où il y avait Jacques Pochemort, il y avait tous ces gens-là, tous ces auteurs avec qui avaient formé Jacques Pochemort, qui était le directeur littéraire de Lafond, qui avait créé cette école de Brive.
il a été à la jonction de pas mal de mouvements littéraires aussi, des néo-hussards, ce qu'on a appelé. Il était le plus âgé des néo-hussards, avec des gens comme Éric Neuf, Patrick Besson. Et puis, moi j'aime beaucoup parce que l'œuvre, elle est une œuvre très prolixe, dans plein de domaines. Il peut aussi bien écrire sur le rugby, sur Simenon, sur le rock.
Chirac, parce qu'il était...
Et je en profite pour dire que c'était un très grand styliste.
Oui, exactement.
Souvent, on l'a oublié. Exactement. Parce que finalement, les dernières années, comme il a été un peu associé à Jacques Chirac, alors il s'est occupé de la francophonie, on a oublié un peu que c'était un très, très grand écrivain. Et quand on relit, il a écrit beaucoup de chroniques, c'est une très belle plume, très fluide, très... vraiment très agréable.
Écoutez, je suis ravi qu'on parle de Denis Tillinac parce que c'était un être délicieux, c'était un ami, on déjeunait de temps en temps ensemble. Moi, j'étais plutôt éditeur, j'avais pas encore écrit, mais je faisais, voilà. Et je voyais Denis qui me tombait dans les bras, il me dit « Tu as lu mon dernier livre ? Tu l'as pas encore lu ? C'est un scandale !»
Oui, c'était un personnage avec
beaucoup de caractère. C'était un personnage en couleur avec du caractère et tout.
Et j'ai la chance de faire partie du jury du prix...
Du prix Tillinac, oui, c'est ce que j'avais...
Le président Eric Neuf, il y a vraiment une belle équipe. Il y a Jacques Maillot, par exemple, qui est vraiment le... un des derniers chansonniers français.
Ouais, absolument.
Qui est délicieux, qui a beaucoup d'esprit.
Oui, on parlait des années 70, 80, 90, c'était cette époque-là.
Oui, bien sûr.
Voilà, ça m'a fait très plaisir d'échanger déjà avec vous, avant de rentrer dans le détail de votre livre, de l'ami Denis Tillinac, quoi. Que peut-être de là-haut, il doit se dire, allez, cause de moi, allez, avec sa gouaille. Voilà. Alors, ce livre, l'idée est venue comment ?
L'idée est venue, j'ai une veine un peu poétique que je n'ai jamais exploitée totalement.
Parce qu'il faut... Qu'on retrouve dans le livre. Hein,
voilà. Et là, donc, voilà, peut-être que la prochaine fois, ou dans 5 ans, dans 10 ans, c'est peut-être la prochaine étape de ma vie littéraire, d'aller jusqu'à la poésie. Finalement, il faut oser aller jusqu'à la poésie. Et là, on est un peu en un entre-deux, entre un roman, et j'appelle ça un poème en prose, une ode, une lettre à une épouse, un portrait également, hein, le portrait d'une femme.
Dont on ne donne pas le nom d'ailleurs.
Non, justement, on a...
Je me suis fait,
c'est un peu une littérature sous contrainte, voilà.
Ouais.
Je m'étais dit... pas de personnages, uniquement deux,
ouais.
Peu de dialogue,
ouais.
Pas de nom, voilà, pour garder un certain mystère, et puis parler de l'amour. Alors là, l'amour, je suis pas le premier, je serai pas le dernier à en parler. Donc c'était un peu risqué quand même, parce que des livres d'amour, il y en a partout. Donc je me suis dit, comment on aborde
quelque chose d'intemporel?
Et donc un couple et un amour sur une longue distance, voilà. Un peu un amour éternel, un peu mythifié aussi, et tout ça mélangé avec les sentiments, hein, du narrateur, mélangé à une époque sur les 25 ans, parce que je garde ma référence de Monsieur Nostalgie, mais comme ça par petites touches impressionnistes, j'essaye de remettre dans l'époque, les années 80, voilà, des détails vestimentaires, des détails... Là, on en revient au livre de Madame.
Mais exactement, voilà. j'allais le dire tout à l'heure.
Mais comme ça, par petite impression.
Les balades dans Paris, les visites.
Voilà, visite de Paris, et puis des lieux, voilà, des lieux... Il y a Paris, il y a Rome, voilà, la Bretagne parfois, le Morvan. Mais il fallait être très léger, voilà, sur un sujet qui était relativement grave, il fallait rester extrêmement léger et pas avoir la plume lourde, pas la plume non plus. Le risque avec ce genre de roman-là, c'est de verser vers quelque chose de larmoyant, victimaire même. Là, il n'y avait pas ça, parce que c'est quand même
un livre heureux.
Et il faut montrer en quoi cet amour-là était fantastique. Voilà. Aussi, un couple, et ça c'est une particularité, ce couple sur ses 25 ou 30 ans, on ne le dit pas exactement, est un couple sans enfant, et qui est choisi.
Oui, ils vivent,
donc c'est un noyau très fort. J'ai un de mes collègues critiques littéraires qui a parlé d'un couple qui est un peu en dissidence. Je trouve que le mot est ça, c'est assez juste. Ils vivent évidemment, ils sont intégrés dans la société, hein, ces deux personnages-là. Ils travaillent, mais leur foyer, leur amour est une sorte de protection Ils vivent un petit peu en parallèle.
Alors, ce roman, il a, parce qu'il a perdu sa femme il y a 30 ans, c'est ça à peu près, non? Une trentaine d'années, non?
Oui,
c'est ça,
il a, voilà.
Ah. Il revisite, il revient le temps, sur les endroits aimés, les lieux, les années heureuses, les voyages qu'ils ont fait
les
ensemble.
Voyages, les brasseries, voilà, il y a quelques passages sur les brasseries parisiennes. Et tout ça est grainé de souvenirs de chansons. Voilà, de chansons, généralement de chansons populaires. J'aime beaucoup la variété française de Michel, mais aussi de la chanson italienne, voilà, de réminiscences de cinéma, voilà. J'en profite aussi parce que le narrateur, il a une part de moi, hein, ce narrateur, et voilà, j'en profite pour faire quelques échappées sur, par exemple, le cinéma que j'adore, le cinéma de Philippe de Broca. Je suis un grand fan de Philippe de Broca, et je
Bravo.
Trouve qu'il est souvent sous-estimé par la critique, un peu snobé. C'est un grand cinéaste, donc il a évidemment fait des films qui ont rempli les salles pendant quasiment 30 ans. Et c'est aussi un cinéaste qui est très romantique et qui marie quelque chose que j'aime assez. Il y a un peu d'action, il y a de la drôlerie, parce que souvent il y a les dialogues de Michel Audiard, et puis quelque chose de très sentimental aussi. C'est un cinéaste qui filmait très bien la province. Donc il y a tout ça, voilà.
Alors, c'est les balades en Paris en Vespa.
Vespa, voilà, ils sont tous les deux, ils traversent Paris l'été, voilà, c'est Paris au mois d'août comme René Fallet, il n'y a personne, la capitale est vide.
René Fallet encore, un personnage fabuleux.
Et ils revisitent des quartiers, notamment des quartiers de la rive gauche, le 14e arrondissement, le 13e, la place d'Enfer Rochereau, voilà, le boulevard Arago, Montsouris, les arènes de Lutèce. Donc ils ont leur géographie un peu intime.
Oui, oui. Mais c'est que du bonheur, parce qu'on s'arrête sur des passages, on dit tiens, c'est vrai, mais tiens, faudrait que j'aille faire un tour là, mon tour, pour voir, pour revoir.
Oui, il y a des fois une piscine. Et donc, vous voyez, c'est une gageure un peu, parce que c'est assez délicat, voilà, d'aborder ce... Comme je me suis contraint à avoir peu d'éléments, j'ai été obligé, évidemment, de trouver... Il y a quelque chose... C'est pour ça que ça ressemble à un poème et un peu à une chanson. Voilà, de trouver le bon rythme et que le lecteur voilà, soit
emporté. Vous avez trouvé le bon rythme, vous avez trouvé la cadence. Alors, vous en parlez dans la première partie du livre, vous en parlez. Je pratique l'écriture alimentaire par habitude. Vous parlez un peu... C'est vous, ça?
Oui, je mets un peu...
Alors vous mettez un peu en scène,
je parle même du... Alors, vous savez, le roman, on y met... On y met tout. Il y a de tout. Finalement, ces moins de 150 pages, il y a tout. Il y a même... j'en profite même pour faire quelques théories sur le roman. Voilà. Parfois, moi, je m'ennuie dans le roman. Le roman où il y a énormément de personnages, le roman cathédrale, vous voyez. Moi, je ne suis pas un grand fan parce qu'il y a des... Il y a des moments plats.
Tout le charme de votre roman, voilà. Avec, je le disais tout à l'heure, avec de mémoire 170 pages. Mais ça se lit, c'est magnifique.
Je voulais quelque chose d'assez prime-sautier.
Voilà. Prime-sautier, c'est réussi.
Je suis content parce que vraiment, l'ennui, c'est ce qui me dérange le plus.
Mais t'arrives de plonger dans des romans là qui font 300 pages. On dit bon, non, mais je parle pas du livre de Liane, de Liane Guillaume, perverse, où là aussi.
Non, parce que là, dans le livre, c'est toujours très rythmé. Souvent,
il y a beaucoup de romans avec des chapitres à chaque fois. Ça, c'est bien parce qu'il y a un rythme, il y a tout un. On n'est pas en train de se dire bon alors, pardon.
Non, j'ai très envie.
Ouais, c'est gentil.
Ah ben attendez, alors je vous le conseille vraiment.
Ouais. Alors j'avais aussi, alors c'est un peu grandiloquent de dire ça, mais bon, on est là entre nous, je le dis. Il y avait quand même la volonté de faire quelque chose de beau. Voilà, rien de plus. Ça paraît bête quand on le dit, mais c'est ça. Et il faut doser parce que on peut. Du beau au ridicule parfois, ou au mièvre.
Oui,
on peut être des fois. Je crois que bon, ça se tient pas trop mal.
Ce qui est intéressant aussi, ce qui m'a beaucoup plu, je vais dire, c'est que Vous êtes entouré, vous levez les yeux de votre clavier, vous le dites un moment, je suis entouré de modèles réduits, de petits autos, de gadgets, de breloques, de gamineries, de... Je me croyais chez moi, parce que j'ai ma bibliothèque, j'ai des petits modèles de voitures. Ce que je n'ai pas, c'est le chariot lunaire de la NASA.
Oui, oui, il y a tous des objets.
Mais j'étais en train de dire ça, je revenais là-dessus en me disant...
Il y a beaucoup d'objets, oui.
Thomas Morales, attends, mais... Il est venu chez moi, c'est pas
possible. Il est venu en secret un soir, une nuit.
Dans mon bureau, avec mon clavier et tout, quoi.
Ben oui, parce que c'est un... Le narrateur est un homme qui a passionnément aimé les Trente Glorieuses. Donc, dans les Trente Glorieuses, il y a des voitures, il y a des objets, des montres.
C'est vous, quoi.
Une brocante personnelle.
Le bling-bling.
Une esprit blanche subaquatique posée sur une table basse face à une Aston Martin DB5 avec son siège éjectable, stationnée en surplomb dans une bibliothèque en acajou, une Honda S800, plus personne ne sait ce que la première auto Honda, là, d'un quitteuil, jeune paille, collabite avec un spacieux break, automobile. Enfin, vraiment, c'est...
Comme c'est quand même ma partie, l'automobile, alors je suis très précis, souvent. Parfois, des gens me disent, mais t'es exagère parce que tu mets exactement le nom du modèle, mais ça c'est obligé, voilà, c'est plus fort que moi. Si c'est une 404, c'est pas une 504. Des fois, aujourd'hui,
la 403 en plus.
La 403, tout ça. C'est un monde à chaque fois. Donc bon.
Thomas, si on se met à parler d'automobile. Voilà, sinon, là, alors là, on va passer la journée sur la radio là.
Parce qu'on m'a posé une question. Est-ce que vous êtes... J'ai fait quelques interviews et dans un questionnaire un peu à la Proust, on m'a dit « Est-ce que vous êtes plutôt DS ou 504 ?» Voilà, donc j'ai eu cette question-là. Alors, j'ai répondu « Plutôt Peugeot, donc plutôt 504, mais en réalité plutôt 404.
Voilà. » Ouais.
Donc on était parti dans un débat auto.
Voilà, alors votre livre, donc, c'est... Vous avez travaillé combien de temps dessus? Parce qu'il y a des descriptions, vous êtes retourné sur alors les lieux.
J'ai la chance d'écrire relativement rapidement. Voilà, c'est pas une gestation longue, hein, parce qu'il fallait aussi pas perdre ce fameux rythme. Donc quand j'ai décidé de me lancer dans cette écriture-là, j'y suis allé quand même à fond dans une période bien. Je pouvais pas laisser papillonner, sortir dehors. Il fallait que je sois pour justement avoir une belle harmonie, voilà, des mots et une symphonie à la fin.
Alors un jour, une lettre arrive, la lettre de l'hôpital Georges Pompidou, et là, on apprend.
Oui, là, il y a un moment, alors très rapidement, parce qu'il n'y a pas de, là, il n'y a pas de suspense dans dans le premier quart. On sait que c'est une histoire qui se finit mal, là. Et le narrateur, le narrateur est déboussolé, voilà, parce qu'il peut pas, il peut rien faire, il peut pas agir, voilà, comme quand on est face à quelqu'un touché par une maladie grave, il n'a pas de solution, voilà. Et il y a quelques lignes, et l'hôpital non plus n'a pas de solution. Mais donc non. Tout le monde est totalement
désarmé,
démuni, en colère au départ, et puis rapidement fataliste. Alors j'aurais pu creuser là ce sillon-là et faire quelque chose de dur, de revanchard, par exemple sur les soins.
Non, mais justement,
on s'arrête là.
Oui, oui.
Et on va éclairer, parce que le but du jeu est d'éclairer cette femme. Mais il y a quelques passages évidemment où chacun se retrouve en se demandant, mais c'est pas possible.
Vous parlez de Rome.
Je parle de Rome. Oui, parce que c'est une ville. Pour moi, c'est la ville de l'amour. Voilà. Alors, c'est bizarre, parce que souvent on dit Paris, mais Rome. D'abord, il y a le climat.
Il y a le climat.
Quand même, c'est cette chaleur. C'est
oui.
Très au sud.
Mais oui, oui.
Il fait très chaud, les pins parasols. Ouais. Je vois un pin parasol, ça y est. je revis, il ne suffit pas grand-chose.
Je connais.
Et puis, il y a une douceur, on parle de la douceur angevine, hein, mais il y a une douceur romaine. Voilà, une certaine nonchalance aussi, et des Romains. Hein,
l'ambiance
qui sont nonchalants et piquants aussi,
comme parfois les Italiens.
Il y a un peu un entre-deux. Non, on est... Et bon, c'est pas très loin de Paris.
L'été dernier, Rome et son odeur de pain grillé sur la cime, les parasols. Enfin, vous en parlez brillamment.
Oui, parce qu'il y a, comme il y a un petit, il y a une déambulation dans Paris, il y a une déambulation de Rome, de, on va dire, des jardins de la Villa Borghese jusque dans le centre, jusqu'au bord du Tibre. Donc, le couple amoureux, je revisite quelques...
Alors, je vous retrouve là aussi parce que je vais vous faire sourire, vous allez tous rire. Tous mes amis qui vont à Rome m'envoient une photo parce que sur la place Saint-Pierre, il y a un magasin de souvenirs. Et le magasin de souvenirs s'appelle Nadeo Souvenirs, c'est mon nom.
Non.
Donc à chaque fois que j'ai des amis qui vont à Rome, j'en ai encore reçu une la semaine dernière. On a pensé à toi, il y a ton cousin qui est en face du pape. Et Rome est un endroit aussi magnifique, quoi. C'est...
Ah oui, non, là, Rome, je conseille à tout le monde d'aller au moins une fois dans sa vie. On doit venir une fois dans sa vie à Paris, hein, pour un étranger ou un provincial, mais Rome aussi.
Non, votre livre est... Alors, je ne sais pas comment en parler, parce qu'il y a tellement d'émotions dedans, il y a tellement de bonheur, il y a tellement de paysages. On s'arrête, on revient en arrière, on relit une ligne, la brasserie Lutetia à un moment aussi.
La brasserie historique Lutetia, avec le décor, les
Moleskine
rouges.
De l'ancien Lutetia.
De l'ancien Lutetia,
voilà. L'ancien Lutetia qu'on a
connu. Mais vous savez, c'est aussi pour l'auteur, avec un livre comme ça, c'est plus compliqué. Évidemment. Là, je ne peux pas plaquer un argumentaire sur ce livre qui est très particulier. Comme c'est un patchwork, c'est un livre d'émotions et d'émotions successives. Donc, il n'y a pas une... Je peux vous dire, je dis c'est un roman d'amour parce que c'est
oui,
le cas.
Oui, c'est un roman d'amour.
Mais après...
Mais il y a les descriptions, la jupe que Marie-France Pizier, ouais.
Il y a toujours des références.
Une référence avec des références là, et on recroise. Alors, j'ai recroisé des tas de gens qu'on a connus dans l'édition, que j'ai retrouvés. Tiens, c'est un livre extraordinaire, quoi. Un livre.
Non, c'est. Il y a des petits. Dans un passage, je parle par exemple de Philippe Noiret. Voilà,
oui,
ce couple-là croise Philippe Noiret.
Oui, oui.
Là, ça rejoint la vérité, la réalité. Ça m'arrivait vers les Invalides de croiser Philippe Noiret au volant de sa voiture. Il avait une Volvo et Monique Chaumette, qui était donc son épouse, qui était toujours vivante, Monique Chaumette.
Ouais.
Ils étaient tous les deux. Lui était assez immense. Hein, il paraissait immense. Et Monique Chaumette, toute petite, dans cette voiture-là. Alors. C'était une apparition pour moi céleste, quasiment.
Mais bien
j'adore
sûr.
Philippe Noiret.
Ben oui.
Et, Philippe Noiret. Alors, c'est
magnifique.
Là, j'avais gagné
magnifique,
ma journée.
Thomas.
Alors, vous avez aussi inventé une expression, les ancrés.
Oui, 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 les ancrés. Oui, allez.
Les combats orgueilleux aux ancrés. Nous avions inventé cette expression, les ancrés désignant les hommes acceptant la confrontation ou du moins une certaine proximité entre eux. Et les ébrures sur le papier, des gribouillis illisibles et sans dessin, des zigzags indéfrichables, nous étions de la race de ces éphémères. Ouais. Mais c'est plein de magnifiques phrases. Paul Guimard aussi est dans le livre.
Paul Guimard, les choses de la vie.
Membre du jury du prix Interallié.
Voilà, donc c'est un écrivain un peu. Alors, comme certains de ces. Livres ont été adaptés, notamment Les choses de la vie, donc on ne l'a pas oublié, surtout que le film de Sauté avec Piccoli et Romy Schneider est un superbe film, mais l'écrivain est un petit peu disparu. Je crois qu'il existe en poche, hein. Il y a encore quelques Paul Guimard,
mais c'est en poche. Des gens qui étaient à une époque qui étaient Paul Guimard, c'était...
Non, c'était d'abord c'était un proche de François Mitterrand,
oui,
voilà,
oui,
vraiment
oui,
un ami, l'ami écrivain proche. Hein,
oui, oui.
Benoît de Groult et lui. Alors c'est pareil, souvent Paul Guimard a écrit des petits romans.
Hein, pour la communication audiovisuelle, Paul Guimard, c'était
quelqu'un de très important. Oui, il a eu des responsabilités à un moment. Mais peut-être, vous voyez, pour les écrivains, c'est pas bon signe. Aussi bien pour Paul Guimard que Denis Tillinac, quand ils ont commencé, même pas vraiment par carriérisme, mais à flirter avec la politique, ouais. On a oublié l'œuvre. On oublie Paul Guimard, qui est un superbe écrivain, et Tillinac aussi, et on retient, si je dis dans une assemblée Paul Guimard, je suis sûr que des gens ont oublié, mais certains vont dire « Ah oui, c'était pas un copain de
Mitterrand. »
De Mitterrand.
Oui,
et je pense aussi à un écrivain qui est totalement oublié, qui s'appelle Georges Conchon. J'ai écrit plusieurs fois. Georges Conchon, qui a eu le prix Goncourt,
qui a eu quasiment tous les prix.
Georges Conchon, qui était un proche de Michel Rocard. Tous ces livres ont quasiment été adaptés au cinéma avec des grands acteurs. Il y a Piccoli, Jean Carmet. Georges Conchon, il a vendu des centaines, ah bah des centaines des de milliers. On les retrouve dans les boîtes des bouquinistes. Et c'est quasiment, il n'y a aucune reparution de Georges Conchon. Il n'y a même pas une, je le regrette, une, les amis de Georges Conchon. Voilà, il y a des écrivains, j'aime beaucoup Christine de Rivoire. Et il y a des amis de Christine de Rivoire qui ont une association très active dans les Landes. Mais Georges Conchon n'a pas eu le droit à une postérité.
Non, mais vous citez des tas de gens. Moi, j'ai retrouvé, je me suis replongé là, parce que j'ai retrouvé des tas de gens. À un moment, vous citez, vous dites qu'Henri Miller avait pour la première fois, lu Giono par l'entreprise de la fille d'un libraire de rue d'Alésia.
Oui. Bah, j'aime bien, il y a quelques anecdotes, voilà,
ouais,
comme
des
ça.
Des anecdotes comme ça qui arrivent
sur Paris, voilà,
qui sont magnifiques. C'était. Voilà, vous parlez de Jean-François Deniau aussi.
Eh oui, alors Jean-François Deniau, je suis donc Berruyer, né à Bourges, et Jean-François Deniau a été donc académicien, navigateur, ancien ambassadeur, ministre. Ça a été la grande figure politique de mon département, le département du Cher, pendant plusieurs décennies. Et le seul écrivain, parce qu'évidemment il écrivait, qu'on voyait régulièrement à la télé quand j'étais jeune, et qui était à 20 km de chez moi, c'était Jean-François Deniau. Voilà. Aujourd'hui, il a été remplacé, le grand écrivain de Bourges, c'est Jean-Christophe Ruffin. Voilà.
C'est Ruffin.
Ruffin qui est aussi
son ambassadeur, père, qui a été
ambassadeur
aussi,
et qui a écrit sur Jacques Coeur, la figure historique de Bourges.
Vous savez où j'ai rencontré Jean-François Deniau?
Non.
Sur la muraille de Chine.
Oh.
C'était un voyage.
C'était un voyage que j'avais fait en Chine il y a très longtemps. Et j'étais un des premiers à aller en Chine. J'avais passé un mois en Chine. J'étais rentré par Canton et Hong Kong, Canton. Et puis j'étais monté jusqu'à Pékin. Et j'étais allé, bien sûr, la muraille de Chine, quoi, là. Et je montais sur cette muraille de Chine. Et en face de moi descend un petit groupe. Et il y avait qui? Jean-François Deniau.
Incroyable.
C'était incroyable. Alors, j'étais un des seuls Français, il y avait que des petits Chinois. C'était encore la Chine des années... Oh, c'était dans les années 75, là, quoi. C'était, la Chine avec les chapeaux pointus. Rien à voir avec l'école Mao, etc. Et je vois un gars en costume et tout, avec un petit aéropage de gens. Et j'étais tellement... J'étais très jeune. Et j'étais tellement timide que j'ai pas osé lui dire bonjour. j'ai gardé cette image...
Oui. Ça me fait penser, j'ai croisé jeune, je suis un amateur de tennis, donc je suis allé très souvent à Roland-Garros, et tout gamin, j'ai croisé Chaban-Delmas, qui était évidemment un tennisman, j'avais une dizaine d'années, et j'avais dû le voir à la télé, Chaban-Delmas, mais je ne savais pas vraiment qui c'était, et je me suis arrêté comme ça, et il est venu me saluer, c'était assez drôle, c'était quasiment un sketch. Je savais pas, et mes parents m'ont dit, c'est Chaban. Ah oui, d'accord. Et il est venu, il a vu un petit garçon qui le regardait comme ça.
Alors vous parlez des plages de Normandie aussi, un moment, des balades sur les plages de Normandie, des coupes de foulée, le sable des plages de Normandie. Je l'entends dire, la place de Fürstenberg m'a déçu cet après-midi, je souhaite revoir la fontaine Wallace de l'avenue Saint-Mandé. Tu sais qu'il existe 107... 6 de plus que les Dalmatiens. Enfin, c'est bourré de passages, d'anecdotes.
Il y a la Normandie. Alors moi, je suis très sensible à la Normandie, et ça, c'est lié à mes lectures, mais la Normandie de Villerville, voilà, d'un Saint-Jean-Hiver. Donc ça, c'est vraiment...
Quand on arrive à Villerville, qu'on voit là, au carrefour, voilà. Là, avant de descendre on voit la photo Belmondo, puis vous descendez plus bas dans Villerville et vous avez le restaurant dont j'ai plus le nom en tête, avec la caricature de Saint-Jean-d'Hiver, de Belmondo et tout, quoi. Parlez de Honfleur aussi.
Honfleur aussi. Alors Honfleur, il y a aussi on parle de Philippe de Broca, et j'ai un de mes films fétiches qui s'appelle Tendre Poulet, donc il y a Philippe Noiret et Annie Girardot. Philippe Noiret est un professeur de grec, Annie Girardot une commissaire de police. C'est des enquêtes, une petite enquête assez souriante. Et ils s'échappent dans le port de Honfleur, voilà, tous les deux. La Normandie, pour moi, reste liée à un Saint-Jean-Hiver et à Blondin. Voilà.
Blondin
est quand même une
Saint-Jean-Hiver, grande figure. À Villerville, quand vous arrivez sur cette place, là, enfin, à l'entrée de Villerville, là. Vous avez une grande peinture murale.
Peinture, oui, c'est ça.
C'est une merveille, quoi.
Ah oui, oui.
C'est tout un truc. Et alors, il y a un truc aussi qui m'a beaucoup amusé. J'aimais ces encouragements quand nous étions en course dans des rallyes entre les vignes de Bourgogne. Au lieu de calmer mes ardeurs de pilote, elle m'incitait à prendre plus de risques. C'était une copilote d'un genre téméraire.
Alors ça, c'est vrai. Alors là, ça, on va dire ça, c'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'était pas rassurant.
Parce que alors là, je l'ai lu trois fois parce que je fais beaucoup aussi, je fais beaucoup de rallyes. Et j'ai une compagne
qui pousse au crime.
J'étais au taquet, elle m'a dit, mais tu te traînes, on a pris deux.
Oui, non, c'était pas... Quand vous avez une copilote qui est relativement énervée, il y a besoin quand même parfois de calme et de sérénité, surtout quand les virages arrivent vite. Et là, vous êtes totalement déstabilisé.
Je connais ça, j'ai connu ça. Je me suis retrouvé, je me suis dit, c'est pas vrai, Thomas, il a piqué ça où, c'est chez moi.
Oui, mais ça arrive souvent. Soit le copilote, il y a deux genres de copilotes. Soit le copilote extrêmement calme, ce qui est souvent le cas chez les copilotes professionnels en championnat du monde, très calme, très posé, surtout qu'ils voient les virages arriver très vite. Et puis le copilote, je dirais, amateur, qui lui est pas rassurant. On va, vous avez raison, soit jamais assez vite, soit on n'a pas pris le virage comme il fallait.
T'es allé au truc.
La voiture fume partout et vous vous dites, bon, j'ai déjà le dernier virage, je l'ai passé déjà à la limite, donc on va essayer de revenir vivant, voilà, de finir la spéciale
vous
vivant.
Vous citez aussi Claire Bretécher.
Ouais, oui. Alors là, on parlait de féminisme.
Voilà.
Moi, j'ai écrit il y a peut-être 2-3 ans. J'ai fait 2-3 chroniques sur Claire Bretécher. Je l'avais lu, ses bandes dessinées, ses dessins de presse essentiellement. Et j'étais tombé sur un reportage où on venait la voir chez elle dans son atelier et elle m'a subjugué. Voilà, la liberté de ton de Claire Bretécher.
Jolie femme en plus,
jolie femme,
brillante.
Avec une gouaille, quelque chose de très...
Sa bouche qui descendait un petit peu.
Très radicale, avec un discours. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Ça, alors là, c'est une féministe. Si les féministes devaient trouver une porte-parole, visionner n'importe quel extrait, parce qu'elle est comme ça très naturelle, voilà, très naturelle, très frontale. Elle dit, bon, je dessine. C'est une grande dessinatrice, une grande illustratrice, alors qu'il y avait peu de femmes. Il y a quasiment un métier.
Oui.
Et elle dit, oh non, je fais des petits dessins comme ça, comme si c'était rien. Mais on voit que c'est fantastique. Beaucoup d'intelligence et d'humilité, et puis de force de conviction.
Ah, complètement.
On voit l'intervieweur.
J'ai eu la chance de la rencontrer avec Volinsky, avec Cavana, parce que je m'occupais beaucoup de Cavana, l'Hérital, les Ruskov, je m'occupais de ses bouquins et tout, avec Pierre Belfond et tout. Et je me souviens qu'un midi, je crois que c'est Cavana qui me dit... Ah, oh viens, je déjeune avec Claire, on sera pas assez de deux pour. Cavana avec ses moustaches pendantes, là, c'était. Non, mais ce livre est une pépite, vraiment, est une pépite. Là, aujourd'hui, je suis ravi, je suis aux anges, parce que deux auteurs, deux pépites, vraiment dans des tons, dans des styles différents, mais qui sont. Et vous donnez aussi dans chaque petit chapitre un petit texte.
Oui, une petite citation généralement.
Une citation générale.
Une citation qui me tient à cœur ou d'un auteur. Alors il y a des citations d'auteurs célèbres et puis d'autres un peu moins célèbres.
C'était que du bonheur. Voilà, on va refaire une petite pause et puis après vous allez assister à un grand moment parce que je vais donner la parole à mon amie Sylvana, qui va nous parler de Nicola Le Nain, l'armistice. Mais avant, on va faire une petite pause musicale et on va se reposer un petit peu.
Elles sont frôleuses, charmeuses, frileuses. Elles sont brûlantes, fondantes, cassantes, saoulantes. Elles sont fragiles. Dociles, habiles, elles sont promesses et caresses.
Elles sont aimables, gentilles, indispensables. Elles sont en elles, éther, mater, charmeur. Elles sont multiples, sensibles, joueuses, flexibles. Elles sont constantes, touchantes, grandantes. Ardente, charmante, troublante.
Elles farouche.
Elles sont belles quand elles mentent, quand elles cherchent et qu'elles trompent.
Elles sont soupçons, soupirs,
frissons, doux douces, sourires.
Elles sont inquiètes,
soucieuses,
extrêmes,
exquises,
pénibles,
risibles,
lésibles,
sensibles.
Elles sont charmes qui désarment, qui me coûtent des larmes.
Sans voix de velours, elles valent tous les détours.
Elles sont biches ou gazelles, emmerdeuses essentielles.
Elles ont courage.
Oh, fouteuse. Elles sont muses éternelles ou épouses infidèles.
Elles sont longues et puis rondes dans leurs courbes qui font.
Elles sont conteuses d'histoires et de fables du soir.
Elles sont du genre à y croire.
Appréciez cette émission, alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Et bien voilà, Thomas Morales, Les tendresses de Zanzibar. Alors, ce livre a une couverture magnifique.
Ouais,
magnifique.
C'est une de mes grandes fiertés.
C'est vous qui avez.
C'est oui, moi qui l'ai déniché et qui l'ai proposé. Et j'ai eu la chance que les éditions du Rocher fassent un travail pour. Voilà, retrouver les droits et acquérir les droits de cette illustration. Donc, c'est une illustration de Ted Benoit. Peut-être que vous vous souvenez de lui. Il a, quand les Blake et Mortimer ont reparu,
ouais. Voilà,
il a été le dessinateur des Blake et Mortimer.
D'accord.
Et c'est un dessinateur des années 70-80. Il a créé un personnage qui s'appelait Ray Banana. Les amateurs de bande dessinée
le connaissent bien.
On est vraiment dans la ligne claire. Pour moi, c'est un très très grand illustrateur. Alors, j'étais un peu, quand j'ai proposé au Rocher, je me suis dit, bon, ça va peut-être être compliqué, soit les droits vont aller.
Magnifique,
ils ont fait
magnifique.
Un travail formidable et il correspond parfaitement à l'esprit du livre.
Non seulement ça, mais quand vous le posez sur une table de librairie où il y a des livres, et c'était quand j'étais éditeur, je faisais. Ce travail, c'est-à-dire qu'on me proposait une couverture, entre midi et deux, je quittais, j'allais à la librairie du Divan à l'époque ou à la Une, et j'arrivais avec ma maquette de couverture, je la posais sur la table au milieu des livres qui étaient posés, je regardais, non ça va pas, et je faisais comme ça.
Bon test,
et celle-là, je peux vous dire qu'elle elle est visuellement très très belle, très très belle. Alors, et le titre, Les tendresses Les tendresses de Zanzibar.
Le titre est un peu mystérieux, c'est voulu, hein, et un peu mélodique et poétique, hein, ce titre-là.
Ouais.
Alors, Les tendresses de Zanzibar, c'est pas moi qui l'ai inventé. Voilà. Ça provient d'une chanson, d'une strophe d'une chanson de Paolo Conte. La chanson s'appelle Hemingway, Oui. Et une courte chanson, il chante à la fois en italien et en français. Voilà, la fin.
On écoutera peut-être tout à l'heure la chanson Hemingway
de Paolo Conte. Et je trouvais que
de sa voix.
Là, j'aime
grave
beaucoup. On est quelque aussi. Chose aussi oui, de jazz.
Oui.
Donc, je suis amateur de musique italienne. Paolo Conte, c'est vraiment le.
Ici, vous êtes bien placé parce qu'entre Sylvia Bergonzi, qui est italienne, moi qui suis d'origine italien avec mon nom sur la place de Rome.
Moi, j'ai demandé absolument à avoir une attachée de presse italienne.
Ah oui, j'ai bien fait.
On me l'a dit, que c'était.
J'ai fait un très bon choix parce que c'est une excellente attachée de presse.
Sinon, je peux vous dire que. C'était la priorité, c'était la recommandation avant de signer.
Elle commence à me connaître, elle me dit il faut que je t'envoie ça, il faut que tu dises ça, il faut qu'on fasse ça. Et je suis content parce que je la reçois maintenant dans l'émission et elle parle et s'exprime très bien. Et à chaque fois, je lui laisse présenter un livre. Voilà, donc je pense que c'est une attachée de presse qui est hors du.
Ah, c'est indispensable.
Indispensable.
Parce que vous savez, le livre vient de sortir il y a une semaine, hein, c'est tout frais. Mmh. On est quand même un peu fébrile. Voilà.
Ben
l'auteur,
oui.
il veut
ben
bien
oui.
faire le
ben
malin,
oui,
mais
oui.
il est quand même un peu fébrile. Ben oui. Il faut un soutien. Et une bonne attachée de presse, c'est déjà la moitié
du succès. Auteur. Moi, j'ai fait des livres sur l'automobile, sur les routes. Mmh. Mon best-seller, c'est La Route 66, que j'ai fait 5 fois. C'est un grand best-seller, j'ai 5e, 6e édition. J'ai fait l'Histoire d'un National 7, Les Routes de Corse. J'ai fait La Route Napoléon, qui est mon dernier livre, que je décris tout, que je fais avec mes voitures là. Et j'aurais bien voulu avoir une attachée de presse qui s'occupe de moi. J'en dirai pas plus. Voilà, on va... je vais donner la parole à Sylvana. Je voudrais rappeler votre livre, Thomas Morales, Les Tendresses de Zanzibar, un livre. Alors, je vais même donner son prix parce que c'est vraiment un investissement peu cher, 14 euros, bravo. un livre à vous procurer, un magnifique roman d'amour, un magnifique...
merci, vraiment, merci infiniment.
Fabuleux, bravo. Voilà, alors, je vais laisser... Sylvana nous parlait du livre de Nicolas Leden. Alors Nicolas Leden, c'est un militaire français, général de division, qui a dirigé le commandement pour les opérations interarmées. Et il a dirigé le 27e bataillon de chasseurs alpins. Alors c'est dommage qu'il ne soit pas avec nous parce que j'en faisais partie.
Oui.
J'étais aussi chasseur alpin il y a très longtemps dans le service militaire et tout. J'étais au 159e régiment d'infanterie alpine, qu'on appelait le régiment de la neige après l'école de montagne de Chamonix. Donc je pense qu'on aurait pu échanger avec le général, tous les deux, pas mal de choses. Et puis, aujourd'hui, on va en profiter pour le dire, on a quand même eu un chasseur alpin qui s'appelle Arnaud Frion, qui est mort hier, où il y a eu 6 autres soldats blessés. Voilà, donc un petit hommage à ce chasseur alpin qui est décédé hier. Voilà, alors... moi, je suis étonné que tu aies choisi ce livre, Armistice, parce que c'est un livre assez particulier qui parle de la chute de Bien Bien Phu, de ces prisonniers qui ont été là et qui ont marché pendant, qui ont été amenés dans des camps et tout. Mais je crois que tu vas nous en dire plus.
Mais oui, parce que jamais 203, voilà la troisième pépite.
Voilà la troisième pépite.
Alors, il y a une petite histoire. Armistice, on est venu dans mon bureau, on m'a donné le manuscrit, on m'a dit « ce livre est génial ». Je commence à lire, on voit sur la couverture une image d'un soldat, et je commence à lire la 4e de couverture. Donc l'histoire, ça se passe le 7 mai 1954, c'est la chute de Dien Bien Phu, et ça part de la guerre d'Indochine. Et je me suis dit, c'est pas un livre pour moi. Et bien ce livre a changé ma vision du monde. Et oui, je le dis, il a changé la vision du monde. Il y a eu un avant et un après la lecture de ce livre. Pourquoi ? Alors Nicolas, comme on l'a dit, est un officier et il sait de quoi il parle. Il parle de la guerre. Et bien sûr, il parle de la guerre d'Indochine. Le roman se passe au moment où il y a une reddition, où il y a 3 officiers qui vont être faits prisonniers. Nous avons un officier qui sort de Saint-Cyr, qui a quand même quelques petites
coïncidence avec l'auteur Nicolas Lenain.
Il a fait Saint-Cyr aussi.
Voilà, on voit que c'est un officier qui sort de grandes écoles, qui arrive avec plein de théories. On a un deuxième officier, alors lui c'est un petit gars. Qui vit en France et qui a décidé de rentrer dans l'armée pour gagner des sous, pour gagner sa vie, qui n'est pas forcément l'âme d'un soldat. C'est un fonctionnaire. Et on a le troisième soldat. Et c'est ce troisième soldat qui va, en fait, après cette lecture, changer ma vision du monde. C'est un légionnaire qui, lui, va faire plusieurs guerres. Et là, c'est tout l'art de Nicolas Lenain. C'est grâce à ces trois soldats, il vous montre les trois visions de la guerre. Celle intellectuelle, par ce général de Saint-Cyr. Et ce général va causer la perte de tous ses soldats. Donc, il va avoir une espèce de remords. On a ce jeune garçon qui, lui, va devenir soldat pour gagner sa vie. Et au moment d'aller au combat, il va partir en courant. Parce qu'il a eu peur. Et on a le troisième, alors lui c'est légionnaire, il y a toute la philosophie de la guerre. Et c'est tout l'art de Nicolas Lenain de nous expliquer l'art de la guerre. Qui fait que quand moi j'ai fini ce livre, quand je vois les images de guerre à la télé, eh bien il y a des passages du livre de Nicolas qui me reviennent.
J'ai exactement ressenti la même chose.
Ouais.
Voilà, j'ai exactement ressenti, j'ai fait une lecture comme toi. Je ne l'ai pas terminée, mais je...
Mais la fin est exceptionnelle.
J'avais deux livres qui m'ont occupé, mais je vais le terminer parce que j'ai ressenti la même chose que toi.
En fait, il nous décrypte la guerre parce que toutes les guerres se ressemblent. C'est ça, en fait, la philosophie de ce livre. L'âme du soldat, il y a plusieurs âmes du soldat. On a le fonctionnaire, on a celui qui veut diriger, et on a celui qui se demande qu'est-ce qu'il fait là, en fait. Et il nous explique les grandes théories, les différentes phases de guerre. Et voilà... Vu le contexte auquel on vit, eh bien, en fait, c'est exactement, on retrouve exactement ça dans la guerre d'Indochine, dans la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on fait un parallèle entre toutes les guerres. Et dans ce livre, il y a quand même quelque chose. Ces trois soldats sont faits prisonniers. Et dans le lot, il y a, et ce qui est vrai, en guerre d'Indochine, la France avait envoyé des cinéastes pour filmer. Et ces films, c'est vrai, ils ont disparu. Il ne fallait absolument pas qu'ils tombent dans les mains de l'ennemi parce qu'on voyait la reddition de la France. Et au jour d'aujourd'hui, nous ne savons pas ce qui est...
Où sont passées ces images.
Sauf que Nicolas, au cours d'un dîner, a parlé à un officier d'un autre pays, qui lui a donné un indice, une supposition. Et il va, tout au long, parce que c'est ça ce livre, étirer à savoir où sont passés ces films. Voilà.
Voilà, un livre formidable, Nicolas Lenain, que je regrette de ne pas avoir rencontré parce que j'aurais pu échanger sur le 27e BCA. Je fais toujours partie de l'amicale des chasseurs alpins du régiment de la neige, où je reçois là aussi un magazine tous les mois qui est imprimé et tout. Et voilà. Et en plus, il a intégré très tôt l'armée parce qu'il a fait l'école militaire d'Aix-en-Provence, où il y a une école militaire préparatoire qui accueille les gens de 15-16 ans. Et il a fait toute une carrière brillantissime, je vais dire. Dans l'armée. Voilà, donc le livre de Nicolas Lenain, Armistice, très bien décrit, présenté par Sylvana Bergonzi, aux éditions également du Rocher. Voilà, l'émission se termine. Il nous reste une petite minute, donc on ne va pas avoir le temps d'écouter encore, faire une pause musicale. Je voudrais rappeler les livres dont on vient de parler, le livre de Liane Guillaume, Pervers ou le roman de Jeanne, là aussi, Précipitez-vous par les temps qui courent, ça réchauffe le cœur, aux éditions du Rocher. Le livre de Thomas Morales, qui est avec nous aussi aujourd'hui, La tendresse de Zanzibar, un magnifique roman, à ne pas louper, vous allez passer un moment délicieux. Je le rappelle parce que c'est un petit livre, mais un grand livre sur le plan du contenu, une véritable merveille. Et puis, on vient de l'entendre, le livre de Nicolas Lenain, Armistice, aux éditions du Rocher, ce roman sur la guerre d'Indochine, qui nous explique un peu comment ça fonctionne et qui nous fait un parallèle fatalement. On ne peut pas ne pas penser à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Voilà, merci, bon vendredi, bon week-end à tous, et puis à très bientôt sur nos ondes.
Merci.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des éditeurs, dirigé par Jean-Paul Nadéo, diffusé en direct sur Radio Courtoisie vendredi 13 mars 2026, de midi à 13h30 et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir à un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.